Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une du numéro de cette semaine, les JO. Être à la hauteur du rendez-vous des Jeux Olympiques. Guillaume Richard, président du groupe de service à la personne, WeCare. Et Robin Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol. Également président du Commerce 40, ça fait des belles journées de 6 jours, ça au moins, des belles semaines de 6 jours.
Exactement,
hein.
Oui.
Donc c'est le club des jeunes dirigeants de moins de 40 ans du MEDEF. Il a publié « Sourions, nous êtes filmés » aux éditions Alpha. C'est pas évident de faire tout ça. Ouais. Oh, et vous écrivez en plus dans l'Express.
Toutes les semaines.
Oui, un dernier mot sur l'histoire. Travailler plus égale plus de richesse, Gaëlle Mac. Vous dites, ça mérite d'être débattu.
Non, mais je ne pense pas que ça soit complètement mathématique. Et je veux dire, sinon, l'industrie allemande ne serait pas à son niveau par rapport à l'industrie chinoise. Si c'était uniquement par le nombre d'heures de travail de l'ensemble des employés, il ne pourrait y avoir aucun progrès social et progrès dans le temps de travail, et il faudrait mettre tout le monde au travail pendant 12 heures, 7 jours sur 7 pour espérer avoir des gains de richesse. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a évidemment une question de productivité, il y a une question d'innovation aussi. Bon, voilà, et puis il y a une question peut-être d'automatisation aussi, de robotisation pour un certain nombre de tâches. Voilà, mais je serais curieuse de voir comment va être mise en pratique cette nouvelle doctrine de Samsung.
Bien, que ça ne soit pas, le seul moyen de créer de la richesse, on est d'accord. Bien évidemment, l'automatisation, la robotisation, les nouvelles technologies permettent d'accroître la productivité. Mais le travail crée aussi de la richesse. Après, effectivement, ce n'est pas le seul moyen d'augmenter la productivité, la production et la création de valeur.
Moi, j'avais une super idée, c'est que je fais l'émission pendant 1h12 et pas 1h tous les jours, et je ne les fais pas le vendredi. C'est sympa, ça.
La semaine de 4 jours, ben voilà. On n'est que la dose.
La semaine en 4 jours, encore une fois.
Mais la question, c'est que ferais-tu le vendredi ?
Et l'actualité économique s'arrêterait. Ce serait comme ça. Voilà, comme elle s'arrête un peu le samedi et le dimanche. Alors, la SNCF. Ah, ça, c'est merveilleux. Voilà ce que la SNCF... Alors, l'ensemble des syndicats a levé tous les préavis de grève pour les Jeux Olympiques. C'est merveilleux, d'ailleurs, ces entreprises comme la RATP, où on a déposé des préavis tous les jours jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'au 9, je crois. C'est-à-dire le lendemain de la finale des Jeux Paralympiques. Fantastique. Et alors là, la SNCF a dit, on ne peut pas se permettre d'avoir les trains à l'arrêt pendant les Jeux Olympiques, les menaces de grève étaient sérieuses, les préavis étaient déposés, et donc un accord a été conclu et parfaitement bien accepté par les syndicats sur les dispositifs de fin de carrière. Trois points. Les contrôleurs, qui sont les mieux traités, auront la possibilité d'avoir une cessation anticipée d'activité 3 ans avant l'âge de départ à la retraite. Alors globalement, on vient d'enterrer à la SNCF la réforme des retraites. Et sur les 3 ans, 18 mois pourront être rémunérés à 75% en restant chez soi. Bon. La SNCF accorde aussi un échelon supplémentaire pour améliorer la rémunération des cheminots en fin de carrière. Et enfin, le temps partiel en fin de carrière sera rémunéré 10%. Alors tu fais du temps partiel, tu es payé 10% de plus que le temps réel effectué. C'est bien. Pourquoi vous riez ?
Parce que c'est catastrophique, c'est vraiment emblématique de l'état du pays. C'est-à-dire que on sent.
Ah, on n'est pas chez Samsung.
Non, mais au-delà de la comparaison évidemment qui est brutale entre une entreprise privée qui fonctionne très bien et une entreprise publique, mais 100% publique désormais qui fonctionne très mal. Évidemment, je pense que la comparaison est difficile et brutale. Mais le point, c'est que pour moi, on est vraiment sur. On sent que dans ce pays, on est sur le bord du précipice. On le voit sur les finances publiques, on le voit sur l'état d'un certain nombre de services publics. Et vous avez une partie de la population qui se dit, plutôt que de retrousser les manches et d'aller essayer de redresser le problème, se dire, je vais essayer de prendre la plus grosse part du gâteau qui reste dans l'assiette. Et donc, c'est vraiment du chantage, de la menace, ce qu'on a vécu avec ces préavis de grève, l'extorsion permanente de se dire, il reste rien. Dans pas longtemps, on sait qu'il restera rien. Et comme il restera rien, je vais essayer d'en prendre le plus possible du peu qui reste. Et ce sentiment-là, il est terrible, parce que vous l'avez chez les syndicats, vous allez l'avoir chez les retraités, vous allez l'avoir dans chacune des catégories de la population qui essaye de se dire, profitons-en avant que le truc parte vraiment à volo. Et pour moi, c'est là, on est sur de l'extorsion. Je me permets de dire ce mot, mais on est sur de l'extorsion. C'est pas possible d'avoir posé ces préavis qui, en plus, étaient tellement caricaturaux du premier jour des Jeux Olympiques jusqu'à la fin des Paralympiques. Donc c'est assumé, c'est-à-dire qu'on assume complètement de dire, on prend l'objet des Jeux Olympiques pour obtenir un détricotage de ce qui a été en plus critiqué, vilipendé, qui a justifié un nombre de jours de grève à la SNCF pas croyable ces dernières années, la réforme des retraites qui était quand même une sorte de remise, même pas à niveau, hein, modeste à niveau, de cette population, catégorie de la population versus le reste des travailleurs. Et tout ça avec de l'argent 100% public, puisqu'on a quand même repris les 35 milliards de la dette de cette entreprise publique il y a désormais 3 ou 4 ans.
Et il en reste de la dette, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que 35 milliards d'euros de dette SNCF ont été requalifiés en dette publique de la France, ce qui est quand même assez confortable pour une entreprise qui, en plus, peut se permettre d'emprunter avec la signature de la France de manière implicite. Ça vous choque, Gaëlle, ça, cette histoire à la SNCF?
Bah oui, c'est complètement choquant parce que effectivement, si on considère que c'est une entreprise publique et que en
mais plus il revendique l'État constamment d'être un service public,
voilà, a repris en partie sa dette, ça veut dire que les autres personnes qui vont subir cette réforme des retraites, ça veut dire que les caristes chez Amazon, les chauffeurs de taxi, les employés du BTP qui ont eu des vrais métiers pénibles, parce que il faut voir que ces avantages historiques qui ont été conquis par la lutte syndicale, hein, à la SNCF, mais correspondaient à des métiers anciennement pénibles, hein. Je pense que être cheminot avec une locomotive à vapeur, où on fourguait le charbon.
Bon, elle a disparu, la prime de charbon.
Voilà.
Hein. Elle a mis du temps, mais elle a disparu. Hein.
Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que bien des métiers dans le secteur privé peuvent être considérés comme plus pénible que les métiers qui sont exercés par les cheminots à la SNCF ou les contrôleurs ou les autres métiers de la SNCF. Et donc, il faut quand même voir qu'à un moment, qui paye ? Quelqu'un paye, c'est-à-dire les autres, la population active qui n'est pas employée à la SNCF paye pour ses avantages de la SNCF. Donc, ça paraît tout à fait injuste.
Je rappelle d'ailleurs le chiffre de Fipeco, hein, c'est normal que la compagnie soit subventionnée par de l'argent public dans la mesure où la puissance publique a des exigences de cette compagnie.
Bien sûr,
non mais. Rentable et donc qu'elle paye. Mais voilà. Le montant est de 20 milliards d'euros par an des collectivités locales ou de l'État. C'est vrai que quand une collectivité locale veut absolument sa ligne non rentable, elle doit payer pour ça.
Et ce qu'on peut considérer, c'est que simplement la SNCF est capable de mettre le pays plus ou moins à l'arrêt. Enfin,
totalement voilà. Capable.
Donc c'est juste une question de rapport de force en fait et de combien on peut être pénible et combien on peut gêner l'activité économique manifestement ils peuvent la gêner beaucoup, notamment dans une période cruciale qui est les Jeux Olympiques, dont le gouvernement veut absolument que ça se passe bien. Donc là, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Sophie Binet, on a un rapport de force voilà, donc on fait un chantage, on l'exerce, mais il faut considérer quand même, une fois qu'on l'a exercé, que quelqu'un paye. Quelqu'un paye.
Guillaume Richard,
selon que vous soyez faible ou puissant, on vous traite différemment. Ah oui. Et moi, j'ai toujours appris en droit que le droit était là et que l'État était là pour garantir les droits des faibles par rapport aux puissants. Et là, en fait, on a exactement un cas dans lequel certaines catégories de la population... Là, on parle SNCF, mais on pourrait aussi parler des contrôleurs aériens, on pourrait aussi parler de la RATP, usent de cette position de force pour s'arroger des avantages au détriment du reste de la population. Pourquoi au détriment ? Parce qu'effectivement, derrière, ce sont les finances publiques qui payent. On n'a pas parlé des dockers, mais c'est exactement la même situation. Et les dockers qui ont fait que la France, qui a des atouts absolument incroyable au niveau maritime, ne les exploite pas et que l'industrie française en pâtit énormément. Moi, j'ai des industriels qui sont à côté de moi en Sarthe qui passent par Anvers alors qu'il y a le port du Havre à 200 bornes. Pourquoi ? Parce que le port du Havre, on ne sait jamais quand ça va arriver. Ça va arriver.
Et c'est Rotterdam et Anvers qui profitent du climat social dégradé des ports français.
Et c'est une catastrophe parce que derrière, c'est aussi l'industrie qui, normalement, à l'arrière des ports, vous devriez avoir une industrie qui bénéficient de cette capacité d'échange. Et on a une chance incroyable, on a la plus belle façade maritime d'Europe, mais on ne l'exploite pas parce qu'on a des ports qui sont grévés par les dockers. Et il y a un moment, ces corporatismes puissants qui bloquent la France au détriment, qui le font au détriment de l'ensemble de la population, moi je ne trouve pas ça normal, et je ne trouve pas que là, en la matière, l'État et le droit font ce qu'ils doivent faire. Ils devraient protéger les faibles, c'est-à-dire l'ensemble de la population, contre quelques puissants qui aujourd'hui sont en capacité de bloquer le pays et de s'arroger des avantages au détriment de l'ensemble des autres Français.
Il est clair que souvent on a posé la question, est-ce que la SNCF est une entreprise normale ? Je pense que la réponse est définitivement non. Vous avez vu qu'on s'était posé la question de savoir si on pouvait réécrire ou aménager le droit de grève à l'italienne au moment de la dernière grève. Les Italiens ont décidé qu'il y avait des moments sanctuarisés dans l'année où la grève n'était pas possible. Le jour de la fête nationale, les jours d'élection, les jours de grand départ en vacances d'été, il y en a quelques autres aussi. Bon, ben, le débat a été ouvert en France et a été enterré. Il y a cet auditeur qui m'écrit « Cela fait longtemps qu'il n'y a plus de lien entre la SNCF et l'intérêt général ». Cet auditeur s'appelle « Les Amis Européens ». D'ailleurs, je vous rappelle, la prime de charbon a disparu. Mais à l'époque de Guillaume Pépi, j'avais appris l'existence depuis plus de 100 ans d'une règle à la SNCF, alors qui était typiquement, Gaël, la règle qui avait vu le jour à l'époque où les conditions de vie n'étaient pas les mêmes. À l'époque où, quand vous deviez prendre la tête de votre locomotive le lundi au petit matin, il fallait partir très très tôt le dimanche de chez soi, parce qu'on ne se déplaçait pas forcément avec des bolides sur des autoroutes. Et donc, avait vu le jour la règle du 19-6. Toute journée terminée passée 19h à vendredi, ou toute journée commencée avant 6h à lundi, comme après 19h, pour rentrer à la maison, il faut du temps, vous permettez d'obtenir un jour supplémentaire de compensation, parce que les déplacements entre eux étaient un peu longs. Et donc, à l'époque, je me souviens que l'ancien patron de la SNCF nous avait raconté qu'on ne comptait plus le nombre de début machine à 5h58 le lundi, ou d'arrêt machine à 19h02 le vendredi. C'est merveilleux. Alors, celle-là, elle est centenaire, et celle-là, par contre, elle a pas été supprimée. Bon, écoutez... La SNCF.
Simplification.
Oui, simplification, absolument. Alors, qu'est-ce que vous espérez de la simplification ? On dira un mot du CETU, le compte épargne temps universel. Parce que il y a un débat, le MEDEF est opposé à cette histoire, mais l'UDP a essayé d'utiliser ce levier pour ressusciter justement des négociations sociales et aboutir à quelque chose. Le plan de simplification, ce qui est assez désespérant, c'est qu'on en parle souvent autour de cette table. On en parlait hier avec Sophie Sidos Vicat, des ciments, le cimentier Vicat, la présidente du MEDEF Isère. Personne n'y croit, Guillaume Richard. Ça fait des mois maintenant que Bruno Le Maire n'a que ce mot à la bouche. Les diagnostics sont extraordinaires. On compte le nombre de pages de code, le nombre de nouveaux décrets, le nombre de lignes au journal officiel. Et ça y est, ça va être le grand soir. Et alors, vous me dites, et d'ailleurs comme Gaël, je crois, je suis malheureusement très pessimiste. Et là, on y va, ça va être aujourd'hui le point de départ.
Alors, il y a deux éléments. En même temps qu'on annonce des mesures de simplification, les entreprises vont devoir faire face à la CSRD, qui sont toutes les mesures, donc 1250 indicateurs qu'on va devoir collecter.
Extra-financiers
pour faire preuve de transparence. Alors, autant l'objectif est bon, autant c'est une complexité absolument hallucinante pour les entreprises, et seules les conseils et les entreprises d'audit sont contentes avec la CSRD. En même temps qu'on va faire la simplification, on rajoute des complexités extrêmement importantes. Le CETU, le compte d'emploi temps universel.
Alors, le compte épargne temps universel suppose que vous emmenez toute votre vie vos jours de congé accumulés dans votre valise, même quand vous changez d'employeur. T'embauche un mec qui a 20 ans d'expérience avec 35 jours accumulés, ben tu récupères le gars avec ses 35 jours.
C'est ça. Bon. Et donc là, ça aurait été aussi une bonne usine à gaz.
Mais au-delà des
éléments de complexité, en fait, même si on avait des choses extrêmement simples, on a un certain nombre de règles qui sont extrêmement simples et qui sont extrêmement claires, mais pour autant, ça n'empêche pas des analyses particulières par certains fonctionnaires locaux. Je vais vous donner juste un exemple.
Une règle nationale n'est pas forcément lue de la même manière dans une région.
N'est pas forcément appliquée de la même façon dans une région de France. Et au-delà de ça, je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé avec des statuts que j'ai déposés dans un greffe de tribunal à côté de Toulouse. Et il y avait un morceau qui était vraiment un texte de loi. Et donc je dépose ces statuts. Et la greffière nous dit Monsieur, je ne les aime pas, ce paragraphe de vos statuts. Je vous fais l'accent avec, parce que c'est plus pittoresque. Alors je fais, très bien, mais là, c'est des amendes de la loi. Elle me dit, je le sais bien que c'est des amendes de la loi, mais je l'aurais écrit à ces messieurs députés de Paris pour leur dire que je n'étais pas d'accord. Je dis, certes, mais visiblement, ils n'ont pas retenu vos arguments parce qu'ils ont voté la loi en l'état. Mais je le sais bien, mais moi, je ne les accepte pas. Donc, vous avez deux choix. Soit vous changez, vous faites comme je vous le demande, soit vous avez un recours administratif, ça vous prendra 2 ans, vous êtes sûr de gagner, mais ça vous prendra 2 ans. Et donc, même avec une loi extrêmement simple, le fait qu'on puisse avoir plein de fonctionnaires locaux qui analysent la loi à leur façon, ça crée de la complexité énorme. Et donc, de toute façon, il y a une masse de complexité qui est créée aussi par l'analyse humaine des lois, par l'interprétation et par la possibilité que l'on donne à différents personnes de l'administration d'avoir leur propre interprétation. Et c'est pareil sur le droit du travail, où j'ai eu exactement sur le même contrat 150 contrôles. Il y en a 135 qui m'ont dit « Ok, tout est bon ». Il y en a 2 qui me l'ont écrit « C'est parfait ». Il y en a 13 qui m'ont redressé sur les mêmes choses. Et donc, parfois, la même élément, sur le même élément de droit, sur les mêmes bases de droit extrêmement claires, ne donne pas les mêmes interprétations. Oui. C'est ça la complexité, surtout pour nous.
Le sais-tu, vous pensez que ça ira pas au bout, Robin ?
Ouais, j'allais venir sur la simplification.
Non, mais bien sûr. Mais bon, alors, allez-y sur la simplification. Non,
mais la simplification, c'est un serpent de mer.
On pourrait se dire que c'est
On essaye de décoper. Pendant ce temps-là, vous avez quelqu'un avec une lance à incendie qui remplit l'océan des normes. Et encore une fois, vous avez des gens qui sont payés le matin, qui se lèvent et qui sont de bonne foi, qui préparent pendant 2 mois un texte qui soit réglementaire ou législatif, qui le soumettent derrière dans l'administration. Comment vous voulez leur dire, vous n'allez pas appliquer ce texte? Les gens ont travaillé pendant 2 mois, donc avec une conscience professionnelle. Moi, j'ai eu la chance de siéger au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, où on préanalysait les textes. Ben, c'est purement c'est de la comitologie à la française, donc on n'a pas de pouvoir décisionnel, mais on nous soumet les textes. Et on revenait en proposant des textes, en proposant des textes, en proposant des textes. Qu'est-ce que vous voulez, vous voulez empêcher les choses quand vous avez des gens qui sont payés le matin pour les produire. La seule solution, je pense, après longue réflexion sur ce sujet, je pense qu'aujourd'hui, la façon, c'est d'avoir de la concurrence entre les territoires. C'est comme ça qu'on sauvera ce pays. C'est pas en essayant d'enlever quelques normes en haut. Pour faire de la concurrence entre les territoires, il faut rendre des normes optionnelles. Il faut tout simplement permettre à des territoires de dire cette norme, elle est applicable ou non applicable à l'échelle territoriale. Le territoire peut être la commune, l'interco, le département, la région, à la rigueur, peu importe. Mais dire, il y a des normes qui font partie du champ de l'exception, avec des normes qui font partie de l'obligation pour l'intégralité du territoire.
On pourrait imaginer que le fameux ZAN, là, sur le zéro artificialisation nette, soit au bon vouloir des territoires.
Mais par exemple.
Comme c'est une volonté venue d'en haut d'avoir une mesure.
Mais oui, parce que le problème de ce pays, c'est qu'on croit à l'absolue égalité devant la norme. Très bien, ça a marché pendant des siècles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les territoires ne sont plus égaux. D'accord ? Les gens ne sont plus égaux face à. Donc, il faut accepter que la norme devienne optionnelle. Les gens voteront avec leurs pieds, de manière très très évidente. Quand vous aurez une commune ou une interco qui sera bien gérée et l'autre qui appliquera de la norme à plus en finir, qui sera un enfer sur Terre, vous verrez très rapidement où les gens se porteront, où l'activité économique se portera. Et c'est la seule façon de faire. La grosse théorie où c'est l'État qui va lui-même couper la branche et ce qu'il est en train de produire tous les jours, ça me paraît totalement impossible. C'est, vous avez quelqu'un qui produit de la norme et vous dites, tu vas te contraindre. Ça ne marche pas.
C'est un chantier énorme. Il faudrait donc déterminer, parce qu'il y a certaines normes qu'on ne va pas...
Au lieu de dire on va supprimer des articles, vous dites cet article il est optionnel, il est obligatoire.
Ça met de la concurrence entre les territoires.
C'est la seule solution. On n'arrivera pas. L'État ne peut pas transformer ce pays par en haut. La vision jacobine de l'État qui tout d'un coup va être capable de faire se rendre compte et prendre conscience que depuis 40 ans il est en train de surréglementer le pays, ça ne peut pas marcher.
Donc le plan simplification de Gabriel Attal, c'est pas ça qui va changer. Enfin,
Demande à Guillaume Poitrinal, qui a écopé la mer des normes avec beaucoup de bonheur pendant 3-4 ans, et il le dira mieux que moi.
C'est un requiem pour lui, la simplification. Il a gardé des stigmates dans sa chair de ce chantier. Et alors je le rappelais hier, il dit le seul moyen, alors lui, il dit le seul moyen c'est que ça se passe à l'Élysée. Et nulle part ailleurs qu'à l'Élysée. Parce qu'il faut que ce soit une impulsion du président de la République. Mais on pourrait dire à l'Élysée qu'on va faire le tri des normes et dire celles qui sont optionnelles ou celles qui sont. Et il dit, si vous mettez ça dans les ministères, ça redescend des administrations. Et alors là, c'est ce que disait Guillaume, c'est mort. Optimiste, on va pas rappeler les RGPP,
En gros, il y a eu 37 lois de simplification depuis 1970, donc en
37
gros, ouais, 37, donc une tous les 18 mois environ.
Ouais.
Et entre-temps, le nombre de pages du journal officiel a doublé. Donc ça a bien marché, ces lois. Non, mais en fait, je pense que en France, La France, c'est un pays qui est très généreux. Il y a une très grosse puissance publique. C'est les premiers prélèvements obligatoires et les premières prestations au monde, pratiquement. Et c'est un pays où il y a aussi beaucoup de fonctionnaires. Et donc, quand on est dans un pays où il y a beaucoup de fonctionnaires, une partie de leur travail est quand même d'appliquer les normes, de vérifier l'application des normes, de produire des normes, etc. Et quand on est un pays généreux, on veut savoir où va l'argent, on veut contrôler les flux, on veut faire bien attention à le distribuer d'une manière ciblée, etc. Donc on a quand même tendance à écrire les choses non seulement à produire beaucoup de normes, mais à écrire les choses précisément quand on passe de la loi au décret, à la circulaire et ensuite à l'application locale par le greffier. À chaque fois, on a rajouté des lignes et on a rajouté des spécifications. Moi, je veux dire, mon fils est allé chercher à la mairie, il doit avoir un certificat de recensement. Il y avait 3 papiers qu'on devait fournir. Quand on est arrivé sur place, elle en a demandé 2 supplémentaires, un fonctionnaire qui n'était pas dans la liste. On lui dit, mais pourquoi ? Ah ben parce que nous, on trouve que c'est plus sûr de faire comme ça.
Bon, et chacun fait à sa sauce, comme
voilà. La France est connue pour faire une surinterprétation, par exemple, des directives européennes.
Ah, ça, c'est fantastique. C'est le coup du DPE, là.
Et en fait, je veux dire, clairement, il y a une espèce de dynamique incontrôlable. Je ne sais même pas si régionaliser changerait, mais enfin, il y a une espèce de dynamique incontrôlable qui n'est pas simplement celle de l'État. Hein. C'est vrai aussi au niveau des collectivités locales, c'est vrai aussi au niveau des administrations locales. C'est vraiment... Déjà, Honoré de Balzac se moquait des ronds de cuir. Hein. Donc, je veux dire, c'est presque culturel en France, quand même. Hein.
Mais c'est Robin qui rappelait qu'on avait surtransposé l'obligation de DPE en France en ajoutant derrière que les mal notés finiraient hors du parc locatif. Ce qui n'était pas imposé dans la directive de départ. Exactement. Et je me souviens de cette... C'est quand il y avait une sortie dans le JDD, je crois, des 3 patrons, des 3 grandes centrales syndicales, MEDEF, CPME,
oui,
UDP.
Vrai.
Alors, c'est toujours... Quand on prend l'exemple le plus absurde, que c'est le plus frappant, et il disait, tu fais un pot de Noël à Noël, c'est considéré comme un avantage en nature, c'est fiscalisé. Tu fais un séminaire de fin de session le 24 décembre, c'est pas fiscalisé.
Je me souviens que dans cet article, il posait derrière une table où il y avait les codes de l'environnement, code du travail, etc. des années 60, et puis leur version actuelle, on voyait que c'était évidemment toujours le volume était triplé.
Après
Guillaume Richard, oui. Mais on dira un mot du SMIC. Je voudrais vous entendre sur le SMIC.
Après, pour être fair play, c'est la même chose en entreprise. En entreprise aussi, bien on sûr. S'aperçoit qu'on empile, que régulièrement on se refait des back to basic, des simplifications de nos process.
Mais on le fait régulièrement.
Voilà. Ah oui, on le fait régulièrement.
Enfin, oui. Bon. Après, aussi.
Toutes les organisations se bureaucratisent, ça c'est évident. C'est une organisation privée, une organisation publique, et l'organisation publique de la France et de toutes les démocraties occidentales, elle est très ancienne, donc il y a eu beaucoup de couches.
De strates.
Et donc aujourd'hui, la question, encore une fois, c'est est-ce qu'on fait confiance à la personne qui produit la norme pour tout d'un coup se mettre culturellement à faire l'inverse? C'est très compliqué psychologiquement de faire quelque chose et de faire l'inverse. Ou est-ce qu'on se dit on renverse la table et on confie ça à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de produire de la norme, qui a le pouvoir de l'appliquer. Et ça, c'est une vraie révolution. Et ça marche beaucoup plus parce que vous avez... Les gens vont juger beaucoup plus. C'est difficile d'aller trouver le fonctionnaire dans un ministère qui a produit telle norme quand vous êtes l'entreprise qui l'a subi. Par contre, trouver votre élu local, c'est beaucoup plus simple.
Bon, après, j'ai entendu aussi une critique qui est entendable sur le fait que les entreprises veulent de la simplification, toutes. Mais vous avez aussi les secteurs qui, pour se protéger, vont essayer de faire en sorte qu'on mette des normes supplémentaires pour essayer de
mettre des barrières.
De mettre des barrières à l'entrée, voilà. C'est-à-dire, on est bien tranquille dans notre petit truc. Ça, mettez-nous 2-3 normes que les autres pourront pas franchir. Et nous, par contre, c'est bon. Et donc, il y a aussi de la demande de normes qui vient quelquefois. Oui, je voulais vous faire réagir, Guillaume Richard, car vous avez combien de salariés déjà?
Un peu plus de 20 000.
Un peu plus de 20 000. Vous êtes en France. Vous êtes pleine multinationale comme Michelin. Vous avez l'essentiel de vos salariés, voire tous vos salariés en France, d'ailleurs. Et vous savez ce que c'est que de payer des salariés au salaire minimum légal, qui s'appelle le SMIC. Alors, le président de Michelin, il fait ce qu'il veut avec son salaire décent et qu'il donne à ses salariés dans son entreprise multinationale, leader mondial du pneumatique. Seulement, il a franchi une ligne de plus quand il répond aux Parisiens le jour de l'annonce de ce fameux salaire décent chez Michelin, parce qu'il a qualifié le SMIC français. Et là, il a dit, le SMIC français n'est pas décent. Et j'ai considéré que c'était pas la même chose que d'expliquer sa politique salariale dans sa maison à soi et prendre parti sur le salaire minimum français qui, justement, par rapport au salaire médian, est l'un des plus élevés du monde.
C'est effectivement assez facile quand la masse salariale représente que quelques pourcents de son chiffre d'affaires et que l'essentiel ou qu'une bonne partie de ses collaborateurs sont à l'étranger ou qu'il y a une mécanisation qui a remplacé tous les emplois manutentionnaires et les emplois d'ouvriers non qualifiés. C'est assez facile de dire que un salaire qui touche quand même 22% de la population française de mémoire.
17%
de la population.
Un SMIC, c'est 17,3. Voilà.
Donc 17,3% de la population, ce qui est quand même pas neutre.
Ce qui est beaucoup plus élevé que d'habitude. Oui.
Et n'est pas un salaire décent. Chez moi, la masse salariale représente plus de 83% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est considérable. Et mon premier concurrent, c'est le travail au noir. Et donc, est-ce que j'ai les moyens de faire largement plus que le SMIC? Alors, on est légèrement au-dessus du SMIC. Mais pour un intervenant, les salaires sont compris entre SMIC et SMIC plus 10%. Et derrière, aujourd'hui, on n'a absolument pas les moyens. Parce qu'en fait, si on augmente même très légèrement les rémunérations, derrière, tout de suite, c'est un impact sur le prix. Et notre prix, il est déjà au maximum acceptable. Il est au maximum acceptable par rapport à ce que des clients sont capables de payer et de l'analyse qu'ils font entre faire appel à une entreprise déclarée et faire appel au travail au noir. Nous, dans notre secteur, quasiment 50% de l'activité se fait de façon clandestine. Et donc, il y a un arbitrage très clair de la part des clients entre je fais appel à une entreprise déclarée, ça me coûte un peu plus cher, mais j'ai une garantie, j'ai une certitude, etc. Et je suis prêt à payer un peu plus cher et le paiement d'une prestation au noir qui lui coûtera moins cher. Et si on augmente les salaires directement, c'est un impact mécanique, automatique sur le prix de vente et la demande n'est pas forcément totalement élastique. Enfin, il y a une élasticité. Et donc, ce qui fait que si j'augmente un peu, j'ai moins de demandes. En tout cas, j'ai moins de demandes pour les travail déclarés, donc ça bascule sur les travail noirs. Et l'équation, elle a été montrée de façon systématique. Et il y a un récent rapport de la Cour des comptes où il y a plein de bêtises dedans, mais il y a une truc qui est absolument factuel, c'est que en 10 ans, le nombre d'heures déclarées a baissé. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui le travail déclaré ayant fortement augmenté en termes de coûts, il y a une mécaniquement une bascule vers le travail non déclaré. Donc, est-ce qu'il y a la capacité à payer plus ? Ça dépend des industries. Est-ce qu'après c'est décent ? Il faut ne pas oublier que quand quelqu'un est rémunéré aux alentours du SMIC, il bénéficie d'un certain nombre d'allocations et d'aides. Et ça, c'est un des aspects extrêmement positifs de notre pays, c'est qu'on a une solidarité extrêmement forte vis-à-vis des populations les plus faibles et ceux qui sont les moins bien rémunérés par une politique d'aide au logement, par une politique d'allocation sociale qui permet de compléter les revenus. Et aujourd'hui, un SMIC, c'est 1400 euros net, plus un peu d'aide.
Prime d'activité et d'autres choses. En moralité, peut-être que le PDG du multinational ne devrait pas dire ça. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Romarie Vatton, Gaël Mack. Je rappelle la une de Challenge consacrée aux Jeux Olympiques, être à la hauteur, à la une de Challenge cette semaine. Et puis, Guillaume Richard. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.